L'écho d'Afrique sur RCL.
Aïe, 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 aïe. Bonjour encore à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur l'émission L'écho d'Afrique. Aujourd'hui, je serai accompagné d'un invité de grande taille. Oui, nous sommes accompagnés de notre cher Jean-Paul Catrin-Noah. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour cher ami, bonjour mesdames et messieurs.
Je vais te laisser rapidement t'introduire, mais je me permets de faire l'annonce de cette personnalité que tu incarnes. Jean-Paul Noah, un parcours fascinant entre culture et engagement. Né au Cameroun, il a forgé son destin en France, alliant passion artistique et sens du service public. De l'Institut français de Rabat au grand projet culturel de Nancy, en passant par son rôle clé auprès d'André Rossineau, il a su imposer son style, sa spontanéité, sa loyauté et sa créativité. Comment l'art et la culture ont-ils façonné son itinéraire et qu'est-ce qui l'anime dans son rôle de facilitateur de projet? Venez avec moi au cours de cette émission découvrir notre invité Jean-Paul Noah. Je ne sais pas si j'ai fait une belle introduction, mais dis-nous si tu peux justement compléter cette introduction en te présentant s'il te plaît.
Je pense que l'essentiel a été dit. Bravo.
Merci.
Quel bel esprit de synthèse. C'est vrai que une vie ne se raconte pas en quelques minutes, mais ce qui est important, c'est un aperçu des grandes lignes.
Tout à fait.
Et merci d'avoir pris le soin de regarder et d'en sortir à quelques éléments de quintessence.
Tout à fait. Eh bien, sans plus tarder, on va justement te poser la première question. Comment définirez-vous justement une passion artistique? Puisqu'aujourd'hui, ce qui nous ramène à cette antenne, c'est ce sujet que tu as choisi. Et déjà, on se demande, mais pourquoi ce sujet? Mais d'abord, comment toi, tu définis d'abord la passion artistique avant même qu'on ne revienne au pourquoi?
Alors, il y a plusieurs approches, mais ce que je voulais proposer en partage, mais c'est vraiment une proposition, c'est moins une définition académique ou classique qu'un état d'esprit. L'émission étant Écho d'Afrique et une Afrique qui est souvent présentée comme le berceau de l'humanité, avec différentes approches entre l'approche anthropologique, historique, scientifique, et puis simplement un rapport au monde, un rapport aux autres. Et je pensais que aujourd'hui, dans un monde où tout a l'air, où tous ont l'air bardés de certitudes, l'art et la passion artistique constituent encore des lieux qui sont des lieux de frissons. C'est important entre les certitudes et les frissons, c'est vrai, on a besoin de certitudes. Mais quand le monde devient un monde de certitudes où certaines sont manipulées, ou entre les fake news, les deep fakes, et puis tout ce qui peut être manipulation, même l'irruption de l'intelligence artificielle, on a besoin encore de sentir, de nous sentir humains, et l'art et les passions permettent de conserver cette espèce de frisson qui fait que voilà, nous sommes encore et nous nous reconnaissons encore comme des êtres humains. Alors, la passion, les passions artistiques, parce qu'il y en a plusieurs, c'est simplement la manière dont les femmes et les hommes aujourd'hui s'engagent à vivre un rapport intense à l'art, sans frein sur les principes, et ensuite en essayant soit d'en faire un métier, soit d'en faire simplement une source d'épanouissement.
Tout à fait.
Et quand on dit en faire un métier, c'est pas neutre, parlant des Africains, parce qu'il y a bien de domaines en Afrique dans lesquels certains ont l'impression qu'on ne peut pas être professionnel, c'est-à-dire ça ne peut pas être un gagne-pain. Pendant très longtemps, des univers comme la danse ou même certaines formes de musique étaient considérées soit comme des apanages de caste dans une organisation très traditionnelle, et ou alors c'était simplement, voilà, on va dire, c'était quelque chose qui relevait du sens commun traditionnel de festivité, ouais.
Sans voilà, plus, quoi.
Sans plus. S'affirmer dans les mondes de l'art en Afrique pendant longtemps en assumant comme une profession, c'était pas très facile. Ça ouais. ne l'est toujours pas, de manière évidente dans certains endroits. Donc, tout cela compose et constitue un socle, un espace dans lequel on peut réinterroger certaines certitudes et puis retrouver les frissons. Mais ça génère aussi à la fois du dialogue, du respect, de la considération pour ceux qui ont choisi et décidé.
Tout à fait.
Décidé de faire de l'art un peu plus qu'une passion, un peu plus qu'un attachement, mais un métier.
Je m'en vais justement saisir cette petite brèche que vous me tendez, puisque justement vous venez de parler de choix, ceux qui ont pu faire ce choix, et là on parle de choix justement de ce sujet. Pourquoi déjà parlons, parce que vous avez tellement de sujets que vous auriez pu animer sur notre antenne, mais quand j'ai tout de suite compris que vous avez choisi l'art, je me suis dit mais effectivement comment en étant arrivé à choisir ce sujet, mais en étant Jean-Paul Noah. C'est justement ça qui m'intéresse avec nos auditeurs. On voudrait savoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours bercé depuis au plus profond de vous, ou finalement, c'est vraiment quelque chose que vous aviez peut-être abandonné et que c'est maintenant vous êtes en train de reprendre quelque chose justement que vous avez peut-être toujours voulu partager?
Alors, à cette question très intéressante, je n'ai qu'une réponse de principe à vous apporter, c'est que moi, je n'ai pas eu une conscience, une primo-conscience, une conscience juvénile, très jeune, très tôt, du rapport à l'art. Cela m'est venu de manière presque intuitive.
D'accord.
Et aussi... dans un univers qui était un univers non pas identifié en tant que tel, mais plutôt culturel, familial, encadré, parce que j'étais très jeune quand mon père, qui chantait dans une chorale classique, comme on dit, on disait à Yaoundé, c'était une chorale qui chantait le grégorien. Bon, quand il m'a embarqué, vous savez, en Afrique, quand vous êtes en admiration et quand vous avez une relation équilibrée et apaisée avec vos parents, quand votre père vous propose, en fait, tous les enfants veulent ressembler à leurs parents, à leur père, à leur papa. Donc, quand il m'a proposé d'aller avec lui à la chorale classique où ils apprennent à chanter le grégorien tous les dimanches, je suis allé, mais j'ai découvert à travers le chant grégorien, en faisant l'expérience des traductions du latin au français, du français au latin, j'ai découvert une profondeur des textes et un supplément de beauté à travers le chant grégorien. Et ensuite, je me suis passionné pour la musique classique, la musique du répertoire, plus largement, puisqu'on ne faisait pas que chanter pour la messe. De temps
en
temps, la chorale, le chœur donnait un concert, donc élargissait son répertoire à des cantiques un peu moins religieux, enfin un peu moins... voué à accompagner des messes liturgiques. Donc, il y a eu cette première étape, mais il y a une deuxième étape aussi, c'est l'intérêt pour les arts plastiques et le rapport à l'art contemporain, d'une certaine manière.
On y revient justement sur votre parcours, puisque cela va vous, j'ai envie de dire, vous suivre aussi dans même votre choix par rapport à vos études, puisqu'on voit bien un peu certaines déclinaisons par rapport à tout de suite votre bac. Vous allez justement choisir de, après votre bac, vous allez choisir d'abord de faire une licence qui va peut-être se tourner
droit,
plutôt.
Voilà. Droit, vers... sciences politiques. Et ensuite, moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi. Les politiques publiques en matière de culture. Parce que du fait que, avec quelques copains, on avait créé une association camerounaise de musique classique. Et on a organisé des concerts. Donc on a fait plusieurs événements autour de Bach, autour de Mozart.
Nos auditeurs peuvent regarder sur les réseaux sociaux, il y a un nom.
Alors, je ne sais pas. L'association camerounaise de musique classique, c'est ACMC.
D'accord.
On avait ACMC. Créé à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très présente sur les réseaux. Mais on a assuré une belle programmation pendant quelques années.
Okay.
a même organisé un festival de chant choral qui était les Chorales de la Sainte-Cécile, qu'on a transformé en Chorales des Sept Collines, parce que Yaoundé aime bien se comparer à Rome en disant c'est une ville qui a sept collines. On les valorise pas de la même manière qu'à Rome, mais on aime bien se le dire. Donc on avait organisé les Chorales
des
Sept Collines. Et bon, donc il y avait cet univers, mais je me rendais compte à chaque étape que il n'y avait pas de la part des autorités publiques une organisation, une pensée de l'action publique en matière de culture.
Hein,
politique culturelle et surtout des référentiels, des paradigmes intellectuels, scientifiques et sociologiques. Donc voilà, j'étais un peu en manque de cela.
Tout à fait.
C'est ce qui m'a choisi, ce qui m'a décidé à un moment donné, après des études de droit, de sciences politiques, de m'intéresser aux politiques culturelles et d'aller étudier ailleurs, notamment à Lyon, pour acquérir un bagage dans ce domaine.
Tout à fait.
Mais l'art...
Et c'est même ce qui vous amène du coup à Lyon.
Oui.
Puisque vous quittez Yaoundé pour Lyon.
Oui, je pars de Yaoundé pour Lyon.
D'accord.
Grâce à un mécanisme qui a aidé beaucoup de personnes dans ce domaine, c'est des bourses de coopération.
D'accord.
Dont je reçois une bourse de coopération de l'ambassade de France à Yaoundé, avec laquelle j'étais partenaire déjà à l'époque, sur l'organisation d'un certain nombre d'événements dont je vais étudier à Lyon. Mais pour revenir un peu à l'art et à votre question initiale sur le rapport à l'art et à la musique, en particulier, j'avais lu, en étant élève en classe de terminale, on s'intéresse à quelques grands philosophes en terminale qui sont au programme, et il y a Nietzsche qui est au programme.
Ah, je savais que vous alliez le citer, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que vous alliez le citer.
Bon. Et Nietzsche, qu'on étudie à différents moments en terminale, y compris quand on fait l'expérience de la communication des consciences, quand on parle d'existentialisme, quand on parle de... Et Nietzsche, c'est une très belle formule qui est très connue, c'est « Sans la musique, la vie serait une erreur ».
Ah oui.
Et c'est vrai que mon rapport à la musique, j'ai vraiment eu le sentiment à un moment donné que la musique m'a sauvé, et que s'il n'y avait pas eu de musique dans ma propre vie, ma vie aurait été une erreur pendant de très longues années.
Pendant de trop longues années. D'accord. Ou à ce point.
Oui, oui, parce que... en m'intéressant à la musique, à un certain nombre de compositeurs, que ce soit des compositeurs africains ou des compositeurs occidentaux ou d'autres contrées, ce que Wagner appelle le leitmotiv, moi, ma vie a toujours... Il y a toujours un air de musique ou un fait culturel, un fait artistique.
Carrément.
Pour ponctuer mon biorhythme. Donc il y a des situations, alors parfois je l'exprime à haute voix et les gens ne comprenaient pas, parce que quand il y avait une situation et que je me mettais, ça spontanément, ça déclenchait, ça percutait une référence musicale.
Wow.
Et je me mettais par exemple à mimer un air.
Et
les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça y voit? Et moi, c'est ce que ça m'inspire. Ce qui vient de se passer m'inspire exactement la 5e symphonie de Beethoven. Ou alors, ça m'inspire, voilà, vous avez entendu Manju, par exemple, de Salif Keita, ou je ne sais pas quel autre compositeur, parce que voilà, je faisais corps, la musique faisait corps avec ma pensée. Mais il faut dire aussi que c'est des expériences cognitives qui sont documentées maintenant. En matière de sciences sociales, de sciences humaines, on sait quel est l'apport de la musique sur le plan des neurosciences. Et les neurosciences, l'art en général, arrivent à démontrer que quand on est bercé, imprégné, quand on apprend, par exemple, en écoutant de la musique, quand on apprend en visitant des musées, quand il y a toujours l'effet d'association qui marque, à un moment donné, des points de conscience et d'apprentissage et qui peuvent faciliter et qui facilitent même la capacité d'assimilation, de retention et ainsi de suite. Donc, voilà.
Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai déjà suivi des documentaires pour nos auditeurs qui ne le savent pas, où aujourd'hui la musique permet éventuellement de diriger le goût d'un fromage ou de certains aliments dans un sens ou dans un autre, dépendant du volume que nous donnons, par exemple, à ces aliments-là. Donc, effectivement, ce que vous dites, au-delà de l'expérience même sur l'humain, qui est déjà confirmée, et ça, il n'y a même pas à revenir là-dessus, on est maintenant en train d'aller même plus loin pour donner encore plus d'intérêt à certains aliments qui auraient un rapport, en tout cas, avec la musique. Et donc, dans ce sens-là, je vous laisse justement introduire le premier artiste qui va marquer cette première pause. Donc, qui n'est que titre, c'est Back to Africa.
Oui, c'est un album qui est un album, en tout cas, c'est la participe d'une démarche d'hommage au docteur Albert Schweitzer, qui était un médecin originaire d'Alsace et qui est allé travailler à soigner des gens, plus précisément les populations au Gabon, dans la région de l'Ambaréné.
La région de l'Ambaréné.
L'Ambaréné.
C'est plutôt au nord ou au sud ?
Je ne sais pas vous le dire
d'accord.
Avec précision.
Que j'ai posé la question, parce que je sais que le Gabon est aussi sur le littoral, ils ont effectivement des plages, et comme c'est connu que souvent les premiers colons sont arrivés, ils sont installés plutôt dans le sud, c'était pour voir si effectivement, comme il est médecin, il a eu peut-être lui à pouvoir voyager un peu plus quand même vers l'intérieur du pays, où il est resté
littoral. J'ai le sentiment qu'il était plutôt dans l'intérieur du pays.
D'accord.
En tout cas, c'était sa zone d'action. Il avait fait venir un orgue à l'Ambaréné et il jouait des airs de Jean-Sébastien Bach. Et il se trouve qu'il a même enregistré, puisque moi j'ai retrouvé un disque de cantate de Jean-Sébastien Bach enregistré par... à l'orgue par le docteur Albert Schweitzer. Donc, en hommage au docteur Schweitzer, il y a un projet qui a été mené avec un triptyque. Il y avait un disque qui s'intitule L'Ambaréna, Back to Africa, c'est le sous-titre, avec justement une sorte de rencontre entre la musique de Jean-Sébastien Bach et des mélopées africaines avec... cette espèce de dialogue croisé, de regard croisé entre le docteur Schweitzer quand il rentrait de ses tournées de médecin, il jouait de l'orgue le soir pour se reposer, se détendre, et les populations voisines traditionnelles gabonaises venaient entourer sa résidence, et certains sortaient un peu comme si c'était une jam session. Ils sortaient avec
les tam-tams,
les tambours.
Les tambours.
Et puis
et ça commence
ils se mettaient
à danser.
À rythmer. Voilà, ils ne s'étaient pas donné rendez-vous, mais. L'appel de l'art, l'appel des émotions.
C'est ça.
Et il y avait ce dialogue un peu, croisé comme ça,
oui.
Improvisé. Et donc, il y a un disque qui est sorti avec un peu une compilation de tous ces airs et ce qui rend un peu compte, en fait, de cette rencontre exceptionnelle. Entre la musique de Jean-Sébastien Bach et l'Afrique. Le même projet comportait un film qui s'intitule Le Grand Blanc de l'Ambaréné, que certains peuvent retrouver, effectivement.
Le Grand Blanc de l'Ambaréné.
Voilà. Et puis, il y avait un disque, effectivement. Le Grand Blanc de l'Ambaréné, c'est un film réalisé par Bassek Bakobio. Et puis, il y avait un livre autour de
qui
ça.
Qui est un Camerounais. Hein.
Bassek, oui, tout à fait. Qui est Camerounais et qui avait lancé un événement important autour du cinéma en Afrique centrale, puisqu'on connaît le FESPACO.
Tout à fait, à en Afrique de l'Ouest.
Et puis en Afrique centrale, Bassek Bakobio avait lancé les écrans noirs, du cinéma.
Tout à fait.
Donc l'Ambaréné, c'est très beau, c'est saisissant, parce qu'on voit bien là, on parlait de passion tout à l'heure, et passion artistique, on voit à quel moment est-ce que, pour le docteur Schweitzer, Bach était aussi sans doute son porte-bonheur, parce qu'il avait été médecin, il avait fait ses humanités, mais à côté de cela, la musique de Bach a été un compagnon.
Tout à fait.
Quasi quotidien.
Des habitants,
voilà,
et de
pour
toute
lui,
la population,
et un objet de partage, finalement, et d'enrichissement avec les populations. Voilà.
On va écouter donc
Sankanda.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
L'écho d'Afrique.
Aïe, 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 bienvenue à tous nos auditeurs dans cette émission L'écho d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un des imminents de nos invités. Il faut dire que pour moi, personnellement, c'est un rêve qui devient réalité d'être auprès de Jean-Paul Noah. J'en ai tellement entendu parler, mais je ne savais pas justement qui était Jean-Paul Noah. Aujourd'hui, je découvre non seulement tout son parcours, que ce soit académique, professionnel et personnel, mais aussi sa passion. Et sa passion, aujourd'hui, il nous l'a confiée dans la première partie, c'est l'art, c'est tout ce qui est culturel, c'est tout ce qui vibre, c'est tout ce qui est incertain. Et donc ça me fait vous dire, vous qui m'écoutez, que si vous êtes encore en train de douter de quelque chose, c'est normal. C'est justement ce qui prouve que vous êtes humain, les gars. Donc comprenez que dans cette vie, le fait même qu'on doute redéfinit l'être humain que nous sommes. Et donc, sinon, qu'est-ce que serait cette vie sans doute, sans incertitude, et qu'on soit toujours sûr de tout ce qu'on fait? Et franchement, c'est cette leçon-là que j'ai appris dans la première partie qui me frappe et que j'aimerais justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui prennent l'émission en cours, nous sommes aujourd'hui en compagnie encore, je le répète, de Jean-Paul Catherine Noah, ancien directeur de cabinet d'André Rossino, et qui a su imposer son style, sa spontanéité, sa loyauté, sa créativité qu'il nous fait partager aujourd'hui sur ce plateau. Donc, je me tourne encore vers toi, Jean-Paul. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pour toi quelle est la forme ou quelle forme d'art vous touche le plus et pourquoi ?
Alors, toutes les formes d'art me touchent, si je peux parler comme ça. La musique un peu plus parce que c'est mon univers, on va dire. C'est aussi, je peux se dire, c'est l'univers le plus accessible. Parce que si on n'a pas à portée de main le rapport à la plastique, le rapport aux arts plastiques, il faut aller dans, il faut se déplacer, il faut aller en galerie, il faut. Bon. Et encore aujourd'hui, on peut, à travers Internet et à travers les arts numériques,
avoir... Il y a eu du progrès, effectivement.
Plusieurs progrès, sens, mais ouais. En termes de rapport direct, c'est pas toujours...
C'est pas pareil.
C'est pas la même chose.
Ouais, ouais. Bon.
Donc, il y a la musique et toutes les sortes de musique, parce que là, on a parlé d'une rencontre entre un peu la musique classique, Bach et la musique africaine, la culture africaine. Mais ce qu'il y a derrière, c'est pas simplement la musique. Mmh. C'est ce que ces rencontres nous disent, ce qu'elles nous disent de l'humanité.
Bah, la question qui allait suivre, c'était justement quel est le rôle que joue l'art dans la préservation des cultures ou des traditions africaines. Et là, vous devancez justement.
Et dans le dialogue.
En parlant du rôle, justement.
Voilà. Mais et aussi dans le dialogue.
Oui.
Ce que on parlait tout à l'heure de frissons et certitudes. L'art, de temps en temps, ne serait-ce que par ce souffle, ces émotions, génère des frissons. Et à partir de ces frissons, on prend conscience que, effectivement, une partie de notre humanité, dans la profondeur, on se prend conscience de la partager cette humanité avec d'autres. On prend conscience que d'autres s'invitent et nous invitent à cela. Et je veux dire, à un moment donné, que qu'on soit dans l'univers du jazz, qu'on soit dans l'univers des musiques africaines, traditionnelles, que l'on soit même dans des cultures musicales ou dans d'autres formes de culture, on voit à quel moment est-ce que des universaux se mettent en route et on a besoin aujourd'hui, face au repli identitaire, où certains pensent d'abord à travers le prisme de leurs identités, de leur culture, de leurs origines, on a besoin de sujets qui sont des sujets qui transcendent et permettent de transcender et de bonifier, et en tout cas de rappeler l'universalité de notre commune humanité comme un bien commun. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous manquent pour avoir des biens communs, et l'art constitue et nous rappelle que, surtout des formes d'art comme la musique, parce que la musique, c'est d'abord un langage. Mmh. Et s'il y a une partition, s'il y a quelques codes, on n'a pas besoin même de s'être rencontré 5 jours, 6 jours, 7 jours avant.
C'est vrai.
On arrive, il y a un thème, il y a une partition, les gens se parlent, c'est un dialogue, c'est un objet d'échange. Mmh. Et la communion peut se faire tout de suite. Et l'adoucissement des mœurs, comme on dit souvent, la musique adoucit les mœurs. Donc, l'art, oui, toutes les formes d'art me parlent. Je voulais vous proposer un texte parce que la littérature aussi, la littérature, c'est quel puissant, vecteur, quelle source inestimable.
Me poser la question, est-ce que la littérature précède la musique ou la musique devance la littérature? Dans le sens où
l'un et l'autre,
c'est un peu comme la philosophie où on te demande à un moment donné, est-ce que les mots viennent avant les pensées, enfin les paroles avant les pensées, ou les pensées avant les paroles.
Et il y avait même le débat très connu sur est-ce que l'existence précède l'essence, est-ce que l'essence précède l'existence.
Tout à fait.
Les essentialistes et l'existentialiste.
Musique
et littérature sont intrinsèquement liées.
Tout à fait.
Puisqu'on parle de la musicalité d'un texte, et on parle d'un texte musical.
Tout
donc,
à fait.
Les deux marchent assez souvent
d'où
ensemble.
D'où le thème auteur-compositeur, des fois, ou compositeur,
parolier,
tout simplement.
Parolier et autres, ouais, mais ouais. Quand vous lisez, par exemple, même des textes qui ne sont pas si faciles à entendre, comme chez Proust, Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, du côté de chez Schwann, enfin, il y a une musicalité, qui est une musicalité très forte de ce texte, à condition, effectivement, d'y avoir accès. Je voulais vous lire un texte que moi j'aime beaucoup, donc il fait le lien entre littérature et art, et art plastique. C'est un texte de Dora Valier, qui date un peu, qui est dans un opuscule qu'elle a intitulé « L'art abstrait ».
D'accord.
On verra tout de suite la musicalité d'un tel texte. Mmh. Elle dit, je cite, « Il eut le commencement de quelque chose lorsque Kandinsky, rentrant dans son atelier à la tombée du jour, eut la surprise d'y voir une toile d'une indescriptible, incandescente beauté qu'il ne reconnut pas tout de suite comme la sienne parce qu'elle avait été placée sur le côté. Il eut le commencement de quelque chose lorsque Kubka, au cours d'une promenade, demanda pardon à la nature d'avoir essayé de la copier et promit de ne plus recommencer. Il y eut le commencement de quelque chose lorsque Marinetti publia le Manifeste du futurisme dans le Figaro en 1909. Il y eut le commencement de quelque chose lorsque Mondrian écrivit dans son carnet d'esquisses « La surface des choses fait jouir, leur intériorité fait vivre ».
Oui.
Il y eut le commencement de quelque chose lorsque Robert Delaunay peignit la première fenêtre ouverte sur la ville, laissant la lumière faire apparition sur la toile avec toute la cour des couleurs. Je saute deux, trois choses pour aller vers la fin. Et elle conclut son texte en disant « Il y eut le commencement de quelque chose quand il n'y avait rien. » C'est alors que Kandinsky, à Munich, prononça la parole bien connue « Tout est permis. » Nous vivons avec encore cet héritage à la vérité inépuisable. Elle écrivait ça en 1962,
wow.
Dora Valier, dans L'art abstrait. Et donc, il y eut le commencement de quelque chose quand il n'y avait rien. Et en fait, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il est très rythmé, il est quasiment musical. Et la littérature, et quand on a de très grands auteurs, et on en a... Moi, j'aime beaucoup les auteurs...
Charles Aznavour.
Oui, mais d'autres en Afrique, par exemple, pour parler de textes
parce
et
que
de, d'auteurs...
Parce il composait aussi, donc du coup...
Oui, c'est Charles Aznavour. Vous pouvez retrouver parmi les jeunes générations de chansonniers et de paroliers africains, il y a Donny Elwood,
oui.
L'auteur de... on appelle ça Pygmée. Je suis Pygmée. Oui. Bon. Ou encore Cyril Efala de Regretter Mémoire. Vous pouvez retrouver parmi les écrivains, il y a évidemment des très grands, Wole Soyinka, mais il y a un auteur nigérian que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Amos Tutuola.
Ah.
Et Amos Tutuola, qui a écrit notamment de Palm Wine Drinker,
oui.
C'est des textes qui sont magnifiques, Birago Diop, Cheikh Hamidou Kane.
Bon, et moi j'allais penser à celui qui m'a toujours en tout cas frappé, c'est Tino Achebe. Hein, de...
Ah oui, oui. Thing Falls Apart.
On ne pourra pas parler de la littérature africaine sans...
Ben oui, sans... Tino Achebe, Things ouais. Falls Apart.
C'est clair, ça c'est un roman.
Bon, c'est alors, les jeunes générations ne les connaissent pas très bien,
oui,
mais il faut dire que, alors, on a Alain Mabankou. Alain Mabankou, qui est une grande figure de la littérature aujourd'hui, il y a notre ami Gaston Poléfa, qui n'est pas très loin, puisqu'il habite dans le Grand Est. Et la littérature, elle est. quelles que soient les générations d'ailleurs, mais la puissance, Richard Watt disait, les mots sont comme des pistolets chargés.
C'est vrai.
Et l'engagement à travers la littérature, ou même la beauté, l'esthétique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc l'art, ça apporte beaucoup, c'est un rapport au monde, un rapport aux autres, mais surtout, quand on s'y passe, on se passionne pour l'art, très tôt, c'est du temps gagné, et les membres qui s'intéressent, qui pratiquent un instrument, qui jouent, qui lisent, c'est du temps où ils ne passent pas devant des jeux vidéo, c'est du temps qu'ils ne passent pas à faire des conneries, c'est du temps où ils apprennent aussi le respect, des formes de respect.
Tout à fait.
Et c'est très important le respect aujourd'hui entre les garçons et les filles, les filles et les garçons. Et plus tôt ça vient, et mieux ça vaut pour le vivre ensemble.
Ah, moi, je rebondis sur ça, parce que le dernier roman que je viens de lire, c'était... de Fanon France, de peau noire, masque blanc. Et ça, c'est un roman qui m'a beaucoup appris. C'est-à-dire, non seulement sur le plan identitaire, parce que des fois, tu disais d'ailleurs dans tes prises de parole tout à l'heure, en disant, certains prennent des positions d'opinion par rapport à leur identité, par rapport à leurs origines. Donc aujourd'hui, on peut dire que... Bah, c'est même pas tabou, hein, ce que je vais dire, peut-être ça peut choquer, mais bon, ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, mais c'est un peu ancré dans la tête de tout le monde qu'un noir ne peut pas, par exemple, être d'un certain bord politique, pour éviter de citer le nom. Ou bien, dès qu'on voit un blanc qui vient de certaines classes sociales, on va tout de suite avoir tendance à dire, du coup... Et ça, ce roman m'a permis de pouvoir voir plus loin que ça. Et c'est vraiment un roman que j'encourage tous les jeunes à aller lire, parce que ce monsieur a juste un style d'écrire. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très rare que j'ai encore découvert jusqu'ici. Mmh. Donc, je le partage spontanément, puisqu'on faisait un peu...
Oui, c'est Frantz Fanon est aussi avec les continuateurs dans cette... Alors, les maîtres, les grands maîtres, c'est Aimé Césaire.
Voilà.
Aimé Césaire.
Léopold Sédar Senghor.
Mais moi, j'aime beaucoup plus Aimé Césaire sur à la fois le cahier d'un retour au pays natal. Parce que le cahier d'un retour au pays natal pose la problématique complète de ce parcours initiatique, de celles et ceux qui... un peu au gré des immigrations, ils ne savent plus, comme on dit souvent, ils ne savent plus qui ils sont. Et donc, Césaire raconte, enfin, écrit ce livre pour donner la force à celles et ceux qui ne savent pas où ils vont, de se dire, on va tenter, comme on dit, quand tu ne sais plus où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens.
Tout à fait.
Mais le pays natal, c'est quoi? Et Césaire, le cahier d'un retour... au pays natal est très puissant. Et puis, pour la manière anecdotique, pour revenir à Fanon, pour Noir, Masque Blanc, c'est aussi Gaston Quellement qui a écrit plus récemment « Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc ». Il y a des personnes qui pensent effectivement que si tu es noir, tu es assigné à résidence, donc tu aimes le manioc, tu aimes ça. Bon. Et puis à côté de ça, on va, en vérité... l'humain est beaucoup plus complexe.
Tout à fait.
Et beaucoup plus. Il y a quelques universaux qu'on a tous en commun. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que Amin Maalouf appelle, par exemple, il appelle à lutter contre ce qu'il appelle les identités meurtrières. Parce qu'à partir du moment où tu commences à assigner ton prochain dans une case, en disant, bon, il est comme ça, donc l'essentialisme. On dit, comme il est comme ça, on voit qu'il ne fait que ça, il n'est que comme ça.
Voilà.
Et non, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai d'ailleurs. Et j'espère que ça ne le sera jamais.
Donc, effectivement, on revient un peu sur ce que vous disiez tantôt dans la première partie, où la beauté de l'art, justement, et ce qu'il peut nous apporter dans ce moment, on va dire, où l'être humain pense aujourd'hui être certain de tout, on revient sur cette incertitude, finalement, de se dire que oui, il est noir, mais je ne sais pas, éventuellement, si peut-être il aime le manioc ou pas. Il est peut-être blanc, mais je ne sais pas si, éventuellement, il aime les musiques classiques ou aller à l'opéra ou pas. Et d'ailleurs, ça nous permet d'introduire... notre artiste qui va venir marquer la deuxième pause, que je te laisse d'ailleurs nous parler de lui. Il s'agit donc ici de
Épémé, notre... Épémé Théodore, plus connu sous le nom de Zanzibar. Et le groupe avec lequel il a produit, commis une bonne partie de sa carrière, c'est Les Têtes Brûlées. Et Zanzibar est parti très tôt, comme un certain nombre de génies en musique. C'était un guitariste, il est parti au sommet, au fait de sa gloire en guitare. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil comme ça. Moi, je rêve de monter un concours, ou en tout cas des masterclass avec des jeunes générations pour étudier la musique de Zanzibar, en tout cas son style de jeu en guitare, parce qu'il a apporté quelque chose.
Complètement.
Voilà.
Merci beaucoup. Zanzibar.
L'écho d'Afrique sur RCL.
Aïe, 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 aïe. Bienvenue dans notre émission L'écho d'Afrique, en compagnie toujours de notre imminent invité, Jean-Paul Noah, que je me fais l'honneur de savourer chaque instant que je passe à côté de lui, parce que c'est tellement de connaissances, de compétences que j'aspire, un peu comme quand tu te lèves le matin et que tu vas te bronzer et que tu te mets sur, en train de prendre tous ces rayons de soleil ultraviolet qui te font du bien. C'est tellement, non mais j'apprends énormément à travers cette émission et j'espère que c'est de même pour vous les auditrices et auditeurs. Je suis de retour donc dans ce studio avec Jean-Paul Noah. On va continuer sur la dernière partie où tout de suite, je vais poser la question de savoir si aujourd'hui vous devez situer l'art dans la société africaine ou dans la société en général. Quelle est selon vous la place de l'art dans la société ?
Alors, c'est la même place partout, mais ce n'est pas la même visibilité et ce n'est pas la même émergence, ce n'est pas la même valorisation, mais c'est la même place partout. C'est-à-dire... l'art et la culture, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser, mais l'art et la culture constituent ce qu'on appelle l'énergie de la cité.
L'énergie de la cité.
L'énergie de la cité. À l'échelle d'un territoire, la mise en vie d'un territoire, le dynamisme, l'attractivité passe aussi par l'art, le développement des arts, le partage, des espaces de partage, d'expression artistique et la place réservée à l'art. Mon ancien patron, que vous avez eu la gentillesse d'évoquer tout à l'heure, André Rossino, il disait toujours, parlant des piliers, ce qu'il appelle les piliers du bonheur personnel. Il disait, chacun, et ça c'est des universaux, parmi les piliers du bonheur personnel, il y a un toit, un job, la santé, l'éducation et la culture.
Un toit, un job, la santé, l'éducation et la culture. Waouh.
Bon. Donc ça, c'est les piliers du bonheur personnel. Et chacun, quand il a un toit, un job, la santé, l'éducation, la culture, là,
t'es épanoui.
Voilà, c'est les piliers du bonheur personnel. Et ça, ça fait partie des valeurs universelles, que l'on soit à Kigali, à Bujumbura, ou que l'on soit à Pretoria, ou au Caire, à Yaoundé, à Brazzaville,
à Johannesburg,
à Rabat, c'est la même histoire.
Au Togo,
ce sont les mêmes, voilà, à Lomé, ce sont les mêmes aspirations.
Mais oui,
tout à fait. Et à partir de là, donc, l'artiste, ce n'est plus seulement... Alors, ça me permet d'amener... par contre, une prise de conscience, parce qu'il y a le talent qui s'exprime, il y a l'intérêt pour les arts, et puis il y a des métiers. Et il faut les respecter, parce que j'ai un copain qui était enseignant dans une école d'art et qui était aussi en même temps artiste. Moi, je le considérais comme artiste, je le voyais faire des expositions. Et un jour, il m'a dit, écoute, avant, j'étais peintre et sculpteur jusqu'au jour où j'ai décidé d'être artiste.
Ah ouais, c'est profond, ça.
Il m'a dit, et je lui demande, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, écoute,
qu'est-ce que ça veut dire?
Hey, parce que moi, je croyais qu'il était artiste, déjà. Oui. Il m'a dit, non, en fait, avant, j'étais peintre et sculpteur jusqu'au jour où j'ai décidé d'être artiste. Il m'a dit, Jean-Paul, être artiste, c'est une décision.
Wow.
Il m'a dit, c'est la décision de s'opposer et de s'imposer dans les mondes de l'art. Et par voie de comparaison, il m'a dit, écoute, chaque jour, quand tu passes dans la rue, de temps en temps, tu vois une grande campagne, pour ne pas la nommer, l'armée de terre recrute. Parfois, tu vois que l'administration pénitentiaire recrute. Parfois, tu vois qu'on recherche des médecins dans tel ou tel domaine. Il me dit, est-ce que tu as déjà vu une grande campagne nulle part où on dit, on cherche des artistes?
C'est vrai. Bon. C'est vrai en plus.
Donc, il m'a dit, écoute, un artiste, c'est-à-dire un professionnel, quelqu'un qui veut être artiste, c'est une décision, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va se former, qui va s'informer. Parce qu'il m'a dit aussi aujourd'hui.
C'est un autodidacte,
plus,
quoi.
Oui, mais il m'a dit aussi à un moment donné, parce qu'il faut faire attention à des formes de. Allez, comment dire ça? De posture, voire d'imposture. Des gens qui sont formés, formatés, déformés, sans aucune information sur ce qui se passe autour.
Waouh, vous pouvez reprendre ça? Je ne saurais pas le répéter.
Et c'est voilà. Alors, la rhétorique, non, elle est là.
Aimé,
c'est,
là. Bah, bien sûr.
Des gens qui sont formés,
gens qui sont formatés.
Finalement déformés.
Finalement sont déformés.
Sans aucune information.
Sans aucune information sur ce qui se passe autour. Waouh.
Donc,
ça dit tout.
Ça appelle à un moment donné aussi des choix. Et ces choix-là sont des choix bien compris. C'est-à-dire que toujours dans avec l'esprit des frissons. Il faut défendre des convictions sur les valeurs et les principes cardinaux de notre commune humanité en tant qu'humaniste et frère en République et dans les Républiques. Et voilà, avec des traductions concrètes dans des attitudes et des comportements, dans la proximité, le respect des autres, le respect de la loi. Tout ça, c'est un socle, c'est extrêmement important. Après, dans le choix, la direction en disant j'ai un talent, je voudrais explorer mon talent, je voudrais y aller. D'abord, il ne faut pas avoir peur. Simplement, il faut se donner les moyens et considérer que dans l'art, c'est de la technicité, c'est la créativité, c'est l'innovation. Et tout n'est pas spontané. Tout n'est pas spontané.
Encore une fois, derrière la spontanéité,
voilà, derrière la spontanéité, il faut du travail, il faut bosser, il faut surtout s'assumer et la connaissance du dispositif dans lequel on s'intègre. C'est valable partout. C'est-à-dire que si une part de la connaissance de l'environnement professionnel dans lequel on se lance joue à 40% de ça fait partie de ce qu'on appelle les KPIs, les facteurs clés de réussite. Parce que quand on ne les maîtrise pas, et je recommande un opuscule, un petit livre qu'avait publié Pierre Bourdieu, le grand sociologue Pierre Bourdieu, et ça s'intitule c'est questions de sociologie.
Oui.
Et à l'intérieur de ces questions de sociologie, il y a une, c'est qui a créé les créateurs?
Ah!
Qui a créé les créateurs? Et c'est, je recommande vraiment à chacun de lire, c'est un opuscule, donc c'est pas
un gros volume. Livre, non.
Ça se trouve, je crois que c'était même en édition de poche, question de sociologie, Pierre Bourdieu.
Qui a créé les créateurs?
Et je pense que pour tout jeune qui veut se lancer dans le monde et les champs de la création, pour s'assumer à l'intérieur, il a besoin de se cultiver,
tout à fait.
De se documenter. Comme dans tous les domaines d'ailleurs, il n'y a pas que l'art qui devrait échapper à ces mécanismes de professionnalisation. Mais à part ça, une fois qu'on sait où on va mettre les pieds avec les contraintes et les opportunités, avec les servitudes et aussi les grandeurs que l'on peut y rencontrer, alors le choix devient plus assumé et sans doute plus apaisé.
Tout à fait.
Et on n'est pas obligé d'être systématiquement, vous donner l'image de gens torturés ou des gens qui donnent l'impression que, bon, voilà, ils sont... Parce qu'on connaît aussi de très grands artistes, de très grands compositeurs qui sont souriants, Manu Dibango, par exemple, c'était un grand monsieur.
Ah oui, avec un grand sourire.
Un grand sourire qui avait un rapport au monde, un rapport aux autres, était extrêmement à la fois courtois et on peut en citer comme ça plusieurs. Quand on voit quelqu'un comme Youssou N'Dour, c'est des personnes, des personnalités.
Et ça me fait penser à Youssoupha, qui est plutôt lui dans la musique. Et c'est un gars qui est vraiment très souriant, alors qu'un grand artiste, mais avec la tête sur les épaules. On revient encore au respect, l'humilité de la personne, malgré toutes ses réussites, et cette capacité de pouvoir être détaché ou déconnecté du succès. Parce que malheureusement, comme vous dites, quand on n'a pas cette capacité de maîtrise de soi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de la réussite, on est happé par cette réussite-là. Et tout de suite, on tombe dans la débauche, on tombe dans certaines pratiques qui font que finalement, soit on fout sa vie en l'air, ou complètement, quand je dis foutre la vie en l'air, excusez-moi peut-être d'être vulgaire, mais c'est complètement de tomber dans la drogue ou dans tout ce qui peut éventuellement permettre à ce que quelqu'un qui se croit tout permettre, encore une fois, on revient à la certitude que oui, il peut éventuellement, il n'a pas de limite. Et donc, malheureusement, la vie te rappelle qu'à un moment donné, à un certain nombre de consommations de drogue, tu fais un overdose et tu y lâches ta vie. Combien de célébrités, combien de personnes qui ont justement connu un succès fou ont perdu la vie tout simplement parce qu'ils n'ont pas su être capables de pouvoir gérer ce côté « oui, j'ai un succès, mais je reste un humain qui est dans la société ». Moi, je donne toujours l'exemple de Soprano, qui est encore un grand artiste, un clin d'œil si éventuellement notre émission tombe à son oreille. Et des gens comme même Kylian Mbappé, un jeune, mais quand tu vois aujourd'hui dans sa posture en tout cas, puisque je ne le connais pas personnellement, il dégage, il incarne quelque chose.
Et parce que il y a, quand on est un génie précoce, il y a aussi l'entourage et les entourages. On a connu des personnes qui, à un moment donné, pouvaient vous donner l'impression ou racontent qu'il faut un truc. Quand vous vous lancez dans l'art, vous dites toujours « Ah, petit, t'es bon, mais il te manque le truc. » Alors, si, mais c'est quoi le truc? T'expliques le truc. Bon. Et le truc, tu grattes. Et en fait, le truc, ça va finir par un produit un peu décapant, bétonnant et autre, pour t'expliquer que si t'as pas ça, t'as pas compris le fil.
C'est ça.
Et, bon. Et d'autres n'ont pas besoin de ça. On parlait de football tout à l'heure. Les artistes du ballon rond, Roger Milla, 1990, 42 ans, il est arrivé, il avait encore tout le peps et tout. N'avait pas besoin de trucs, les fameux trucs des artistes.
Et justement, en parlant de ça, je m'en vais aussi conclure peut-être cette émission en disant à tous ceux qui sont à l'écoute de nos différents invités, de surtout savoir que cette émission se veut de véhiculer un message d'espoir. Ce n'est ni pour nous, on n'est pas en train de dire cela pour vous dire « Ah oui, vous êtes toujours des gens qui doivent écouter ou apprendre des autres et tout ça ». Non, on vous dit que vous avez besoin, effectivement, de vous construire vous-même pour atteindre une certaine confiance en soi qui vous permet maintenant, même quand vous allez vers d'autres personnes qui vous donnent des conseils, tout conseil n'est pas forcément bon à prendre. Mais c'est votre personnalité, c'est votre capacité à filtrer ces conseils qui vous permettra de choisir les bons et pas forcément les mauvais, mais je veux dire, choisir en tout cas les conseils qui vous correspondraient le mieux par rapport à votre choix. Et donc, je vous laisserai la parole, Monsieur Noah, pour laisser un message à nos auditeurs sur la beauté et la puissance de l'art.
D'abord, restons éveillés, restons à l'écoute. Si on ne sait plus d'où on vient, si on ne sait plus où on va, n'oublions jamais d'où on vient. Et la vérité, c'est qu'en fait, il faut toujours se concevoir dans une forme de transition et cesser d'être très dur avec soi-même. Et être plus dur avec soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on tolère et qu'on accepte des autres, qu'on passe même aux autres et qu'on leur pardonne. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes que finalement, ils sont les premiers facteurs auto-bloquants et bloquants pour eux-mêmes.
Ah oui, ça.
Donc, c'est extrêmement important d'avoir aussi une vision équilibré des choses, y compris vis-à-vis de soi-même, et de garder l'espoir, parce que tant qu'on est, et c'est pas qu'une chanson qui dit ça, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours qu'il y a espoir.
Merci beaucoup Jean-Paul Noir pour cette émission. Merci à la partie technique. Je salue Jean-Luc et Joris qui, grâce à eux, on tient cette émission. Vous tous qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez appris de bonnes choses et je vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Damn, sir, I'm the